Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur RCG, nous sommes le vendredi 13 février 2026, il est 8h.
La matinale info, édition spéciale.
Séquestrée Ilan Halimi, dont les obsèques se sont déroulées ce matin au cimetière de Pantin, et spontanément, des bougies ont été déposées près de son lieu de travail.
Justice pour Ilan ! Justice !
Mais c'est pire qu'une tuerie. C'est une véritable boucherie.
Jacques Chirac et Dominique de Villepin assisteront jeudi soir à Paris à la cérémonie à la mémoire d'Ilan Halimi.
C'est un frère qui est mort dans les conditions les plus atroces.
Cela fait 20 ans, jour pour jour, qu'Ilan Halimi, âgé de 23 ans, était retrouvé agonisant, la majeure partie du corps brûlé le long d'une voie de chemin de fer à Sainte-Geneviève-des-Bois, après 24 jours de calvaire. Kidnappé, torturé et assassiné en France parce qu'il était juif, c'est ce qui est inscrit sur sa pierre tombale à Jérusalem. L'émotion, la révolte, l'hommage du président d'alors Jacques Chirac, la marche contre l'antisémitisme et la reconnaissance de ce crime comme antisémite, déjà pas évidente pour la justice. 20 ans, émaillé de crimes et attentats antisémites, d'une flambée de l'antisémitisme depuis le 7 octobre, 1320 actes antisémites en 2025, soit 3,5 actes par jour. Et la mémoire d'Ilan Halimi à ces derniers mois, au cœur de cet antisémitisme post-7 octobre, stèles brisées, plaques détruites, arbres arrachés, l'antisémitisme symptôme d'une société malade. C'est le constat, dans le même temps qu'une mobilisation des pouvoirs publics dans les discours, comme dans le renforcement de la sécurité de la communauté juive depuis, qui n'enraye pas la multiplication de ces actes ni propos violents visant les juifs et les juives de France aux antisémites. La République dira tout à l'heure qu'il restera toujours un arbre que nul ne pourra déraciner, le chêne qui sera planté dans le jardin de l'Élysée par le président de la République, mais l'empreinte de ce drame et des suivants sur le quotidien des Français juifs est profonde. Dans cette édition, les mots de Ruth Halimi, la mère d'Ilan, l'hommage rendu à Ilan hier soir à Bagneux où il avait été séquestré et torturé. Puis notre invitée, la ministre de la lutte contre les discriminations, Aurore Berger, un sondage IFOP UEJF publié ce matin sur la persistance des préjugés antisémites. On en parlera avec le président de l'UEJF. JF Youssef Murciano. Et on est à présent en ligne avec Ruth Halimi, la mère d'Ilan Halimi. Bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous sur RCJ. Tout d'abord, on va le dire, on va le rappeler, RCJ qui est la radio du Fonds social juif unifié pour lequel vous travaillez. On va insister sur le fait qu'on n'est pas là aujourd'hui pour vous déranger, pour vous embêter, qu'on pense à vous, que le Fonds social pense à vous et peut-être parler aujourd'hui d'Ilan vivant. On a tous en tête de lui ses photos radieux, souriants. Une partie, il constitue quelque part une partie de l'histoire de chaque juive en France aujourd'hui. Dans ce livre que vous avez écrit avec Émilie Frèche, à un moment, il est écrit « Quand il passe la porte, on dirait que la vie reprend vraiment. » C'est toujours ce souvenir qui vient en vous.
Absolument. Il est tellement constant. C'était un garçon qui était plein d'humour. D'ailleurs, tous ses amis et sa famille l'adoraient pour ça. Et malheureusement, il a été choisi comme victime. Mais je crois que c'est tous les jours que ça se passe. Et c'est surtout cette jeunesse qui devient de plus en plus violente. Heureusement, il y a une exception, mais il faut travailler le mental des jeunes pour leur expliquer que nous ne sommes que des êtres humains, quelle que soit la religion.
Quand vous entendez qu'il y a ces prix, ce prix Ilan Halimi notamment, ces arbres en tout cas qui sont plantés dans de nombreuses villes en France, hein, qui va être planté demain à l'Élysée, est-ce que vous avez l'impression que c'est quelque part la France et collectivité qui se réapproprie la mémoire d'Ilan Halimi 20 ans après? Vous avez un regard là-dessus, vous êtes consulté, c'est quelque chose d'important pour vous?
Absolument, c'est... Je trouve que c'est une preuve que la France réagit tout à fait normalement en disant que quelle que soit la religion de l'être humain, il faut absolument arrêter ce carnage. Mais c'est un cadeau, pour moi c'est formidable.
Justement, peut-être sur quelques mots sur ce que vous êtes, sur votre vie. On l'a dit, vous travaillez au Fonds social, cette vie juive, quelque part, qui ressemble à toutes celles qu'on peut connaître. Il y a un fossé entre ce que vous vivez, ce que vous avez vécu et les préjugés antisémites auxquels vous avez été confrontés.
Oui, écoutez, je suis née au Maroc et j'ai passé ma jeunesse au Maroc et grâce au ciel, on n'avait pas ces problèmes. Il n'y a toujours pas de ce problème. Mais aujourd'hui, je pense qu'il y a certainement un enseignement à faire dans les écoles pour inspirer et surtout pour ne pas toucher aux enseignants qui sont une barrière contre la violence de certains jeunes. Et pour les parents, il faut enseigner le respect de l'autre, quelle que soit sa religion.
Vous êtes toujours, et on recevra tout à l'heure Alexandre Arcadie, attaché à ce livre avec Émilie Fraîche, à ce film d'Alexandre Arcadie. Pour vous, c'est des outils, peut-être des outils qui devraient être pédagogiques dans cette logique de diffusion aux jeunes que vous évoquez ?
Absolument. Émilie vient de parler tout à fait comme à l'accoutumée, tout à fait vrai. Elle est percutante et elle fait bien passer le message. Alexandre Arcadie a bien souligné dans le film, il faut que tout un chacun pense que, quelle que soit la personne que nous avons en face de nous, c'est tout simplement un être humain, c'est tout, rien de plus.
Vous êtes grand-mère aujourd'hui, Ruth Halimi, vous habitez en Israël, et il y a eu... Est-ce que vous arrivez à retrouver, on ne va pas dire une vie comme avant, évidemment que non, mais en tout cas un sens de la joie et peut-être une transmission aussi de la mémoire d'Ilan à travers cette vie, ces nouveaux petits-enfants avec vous ?
Absolument, surtout que je viens d'en avoir deux petits jumeaux, donc c'est qu'un bonheur, la vie continue, hein, il faut passer le flambeau, c'est tout.
Merci beaucoup Ruth Halimi, 8h06 sur RCJ. Hier soir, entre 300 et 400 personnes se sont rassemblées à l'entrée du jardin Ilan Halimi de Bagneux, où il avait été séquestré et torturé. L'émotion des habitants était palpable.
Il y a 20 ans, Ilan Halimi était assassiné à Bagneux parce qu'il était juif. 20 ans après, son nom demeure, son histoire nous oblige. Et sa mémoire nous rassemble.
Je dis, ça aurait pu être mon fils. Mon fils, il a 40 ans. Donc voilà. Donc c'est important. Excusez-moi, je suis bouleversée par l'émotion. Mais
c'est
bon.
Très dur. Mm-hmm. Moi, je vais vous dire, c'est très dur cette cruauté. Comment il a été traité et comment on en sait encore, puisque il y a encore plein on en entend parler tous les jours. Et je ne comprends pas cette méchanceté, mais c'est plus que méchanceté,
cette haine.
Comment peut-on arriver à tuer comme ça, comme ils l'ont fait souffrir, mais c'est pas pensable.
C'est sûr qu'on ne peut pas l'oublier, quoi. C'est pas possible.
Et on venait hier soir d'avoir les chiffres des actes antisémites de 2025. La réaction du président du consistoire, Élie Corchia.
On ne peut pas accepter dans notre pays que 20 ans plus tard, le martyr d'Ilan Halimi, que nous commémorons bien sûr avec ses 20 ans, ait été le début finalement d'un continuum depuis 20 ans de souffrance, d'actes antisémites, de crimes, pour des causes diverses que j'ai rappelées tout à l'heure dans mon discours, mais on ne peut pas accepter qu'en 2026, 20 ans plus tard, on en soit encore à déplorer un tel nombre d'actes antisémites, et comme je l'ai dit aussi, avec un après 7 octobre qui a été un déclencheur terrible, c'est un combat qui va nécessiter plus de prévention, encore plus de répression et une judiciarisation qui soit à la hauteur de ce combat contre les actes antisémites. C'est aussi ça l'enjeu d'un événement mémoriel et une commémoration comme ce soir.
8h08 sur RCJ et dans un instant, retrouvez l'interview d'Aurore Berger, notre invitée ministre en charge de la lutte contre les discriminations.
Vous avez plus de 60 ans et habitez Paris ou l'Île-de-France? Vous avez besoin d'aide pour réparer une fuite, gérer votre administratif, vous déplacer ou vous sentir en sécurité à votre domicile? Le kiosque solidaire vous met en relation avec des professionnels fiables et bienveillants et vous accompagne dans la résolution de vos problèmes du quotidien. Plus de stress, plus d'arnaques. Contactez le kiosque solidaire, service du FSJU, soutenu par la Fondation pour la mémoire de la Shoah au 01 42 17 10 80. 01 42 17 10 80. Parce que votre confort est au cœur de notre engagement.
Bain et déco, parce que votre intérieur mérite l'excellence. Salle de bain d'exception, cuisine et dressing sur mesure, de la conception en passant par la rénovation complète de votre appartement. Nous sélectionnons et représentons les plus grandes marques haut de gamme et nos artisans qualifiés subliment chaque détail avec exigence, précision et élégance. Découvrez nos showrooms spacieux à Bastille, Saint-Germain et Boulogne et notre toute nouvelle adresse d'exception de 450 m² au 9 avenue Victor Hugo, Paris 16e. deuxième. Prenez rendez-vous sur bainetdeco.fr. Bain et déco, l'art de sublimer votre intérieur. RCJ.
Les pouvoirs publics face à l'antisémitisme depuis l'assassinat d'Ilan Halimi il y a 20 ans, on en parle ce matin avec vous. Aurore Berger, ministre française déléguée chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations. Bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous sur RCJ ce matin. L'assassinat d'Ilan Halimi, pour vous, c'est une tragédie juive, française et aussi républicaine.
C'est d'abord une tragédie française, c'est pas une tragédie juive. Il se trouve qu'Ilan Halimi a été ciblé parce qu'il était juif et parce que ça charriait tous les préjugés antisémites, notamment le fait que parce qu'il était juif, il aurait de l'argent, sa famille en aurait et que ça justifierait de pouvoir les faire chanter. Mais c'est d'abord une tragédie française, une tragédie pour la République de se dire qu'un jeune homme de 23 ans a été pris pour cible au nom des préjugés antisémites, qu'il a été torturé pendant 24 jours et ensuite laissé pour mort. Et c'est aussi la nécessité du sursaut que ça a suscité. Parce que le fait justement qu'une génération ait pu s'identifier à Ilan de par son âge, de par son parcours, parce qu'à la fin il s'est fait piéger uniquement parce qu'il pensait rencontrer une jeune femme, une jeune fille, je pense que cette identification, elle est aussi extrêmement puissante parce qu'elle dit que d'un point de vue générationnel, encore une fois, on doit pouvoir avoir ce sursaut républicain, cette identification, et considérer qu'Ilan aurait pu être nous, on aurait pu être à sa place, et donc on doit se sentir concerné par le drame qu'il a emporté.
20 ans, justement, c'est une génération qui a passé depuis l'assassinat d'Ilan Halimi. Les stéréotypes que vous évoquez, c'est les plus anciens sur l'antisémitisme. Oui. Ils ont de l'argent, ils sont solidaires, ils sont toujours à l'œuvre aussi, quelque part, ces stéréotypes. Le fait qu'ils soient toujours là, notamment chez les plus jeunes, c'est une forme d'échec.
Alors, ce qui est vrai, c'est que malheureusement, il y a l'angoisse d'un fossé générationnel qui pourrait se creuser, c'est-à-dire de voir même qu'il y a une forme de régression et que les plus jeunes sont encore plus sensibles à des préjugés antisémites. Parce que depuis 20 ans, il y a d'autres manières de s'informer ou de se désinformer, surtout de manière extrêmement massive sur la question des réseaux sociaux. Et on voit bien à quel point ils sont utilisés comme une arme de destruction massive aussi des cerveaux, des intelligences et de la capacité de compréhension de la complexité du monde. Et notamment sur la lutte contre l'antisémitisme, sur la question du conflit au Proche-Orient, sur les rapprochements qui sont faits entre les deux, alors qu'on parle de deux objets qui sont totalement distincts et qui doivent rester évidemment distincts. Et donc nous, notre objet, c'est quoi? C'est justement de dire qu'il n'y a pas une génération qui serait perdue par principe ou par avance, mais qu'au contraire, c'est à nous de mener le combat pour garantir qu'à l'école, les enseignements soient très clairement établis, soient répétés, soient compris, soient intégrés, revoir la question de la formation des enseignants. Tout ça, c'est ce qu'on a aussi relancé avec les assises de lutte contre l'antisémitisme que j'ai portées, où j'ai souhaité d'abord m'adresser à la jeunesse. Parce que si les victimes sont de plus en plus jeunes, c'est parce que les auteurs sont aussi de plus en plus jeunes. Donc c'est à eux qu'on doit parler, c'est eux qu'on doit interpeller.
Justement, sur la jeunesse et le prix Ilan Halimi, qui avait été remis à l'Élysée d'ailleurs l'année dernière, qui sera remis cet après-midi à Matignon. Combien de classes sont concernées? Qui est touché? Est-ce qu'il n'y a pas aussi une nécessité, au vu de tous ces sondages, de se dire il faut que ça prenne peut-être un peu plus d'ampleur?
Alors, ça prend de plus en plus d'ampleur, et je me suis impliquée très personnellement pour que les choses progressent et avancent. On a eu 60% de participation en plus, de dossiers en plus, de classes impliquées, d'associations impliquées. J'espère que ce sera encore plus important l'an prochain, parce que évidemment, on entend pas s'arrêter, on entend au contraire poursuivre cette œuvre. Ce qui est très important, c'est que le prix Ilan Halimi dit deux choses. Il dit, un, que la famille a été d'accord pour qu'on puisse porter au nom d'Ilan un prix, et deux, que ce soit un prix universaliste, un prix qui parle de la lutte contre l'antisémitisme et du racisme. Et je pense que ça, c'est extrêmement important, parce que ça montre la vision universaliste qui est celle de la France, qui trie pas, qui hiérarchise pas et qui combat toutes les formes de haine, parce que finalement, ce sont des haines qui se nourrissent les unes des autres et qui se répondent. Donc on a plus de 115 classes qui ont candidaté. Et je crois que ça, c'est quand même un signe d'espoir de voir autant d'académies être représentées, de voir autant d'enseignants être impliqués. Et évidemment, on va continuer, parce qu'on doit continuer, parce que le combat aujourd'hui ne s'éteint pas.
On voit beaucoup d'initiatives, de groupes, d'appels à projets sur l'antisémitisme. Vous avez vous-même salué les lauréats du prix Corin récemment. Pour autant, on voit que sur la connaissance de la Shoah, c'est un jeune sur trois qui ne savait pas, par exemple, ce qu'était la rafle du Veldiv. Est-ce qu'il y a aussi une preuve que cet enseignement purement descendant, en réalité, il fonctionne plus?
Je pense qu'il faut se réinterroger sur la manière avec laquelle on enseigne à nos enfants, pas uniquement sur la question d'ailleurs de l'antisémitisme, mais de manière générale sur les connaissances et la manière avec laquelle les connaissances sont délivrées, parce qu'aujourd'hui, les savoirs, ils sont mis en concurrence, les enseignants sont mis en concurrence, parce que finalement, qui on croit le plus ? l'enseignant qui délivre un savoir et une connaissance scientifique, parce que l'histoire, c'est une matière scientifique, ce sont des sciences humaines et sociales, ou est-ce que c'est ce qu'on lit sur TikTok, ce qu'on voit sur Snapchat, ou sur Roblox ou d'autres plateformes. Donc c'est aussi ça, c'est la mise en concurrence, comme si tout se valait. Non, tout ne se vaut pas. L'enseignant ne vaut pas une désinformation massive sur les réseaux sociaux. Donc ça, ça veut dire qu'il faut aussi se réapproprier le savoir, la transmission, la manière avec laquelle on enseigne. Je pense qu'aussi le faire autour de projets a du sens. C'est-à-dire au lieu, comme vous le dites, d'être dans une logique purement descendante où on vous délivre des savoirs et vous êtes là pour intégrer ces savoirs, le fait de faire ensemble, le fait d'être mis en lien avec les survivants, par exemple pour la Shoah, et de continuer d'ailleurs à recueillir ces témoignages pour anticiper le fait qu'un jour, ils ne seront plus là directement pour porter cette mémoire. Le fait d'aller directement sur des lieux de mémoire, 330 000 jeunes étudiants et jeunes lycéens y vont chaque année, et on continue à augmenter évidemment parce que c'est tout le travail pédagogique qu'il y a en amont, et il y a quelque chose de saisissant quand vous allez à Drancy, c'est saisissant, que ce soit votre histoire ou que ça ne le soit pas, c'est l'histoire française, c'est l'histoire de la République, c'est une part de notre identité. Et le fait d'être présent est évidemment saisissant pour des jeunes qui s'identifient, parce que Drancy, c'est des enfants. Ce sont des enfants, ce sont des adolescents qui étaient sur place. Et pour avoir accompagné déjà des classes là-bas, vous voyez qu'immédiatement, même quand c'est très éloigné de leur histoire personnelle ou familiale, il y a quelque chose qui se produit parce qu'ils voient les photos et parce qu'ils voient la proximité. Ils voient qu'à Drancy, finalement, c'était à ciel ouvert, qu'on passait à côté. Chaque jour, on passait à côté. Et que juste à côté de nous, il y avait l'horreur de l'enfermement, de l'internement, de la maladie. Et ensuite, on le sait, des camps vers lesquels on était envoyé. Et donc je crois que ce rapport très direct sur le fait de faire et de faire ensemble, de se rendre sur les lieux, c'est quelque chose qui marque beaucoup plus et qui sans doute marque toute une vie, bien plus que uniquement des enseignements qui doivent continuer à être délivrés, mais qui ne se suffisent pas, je pense, à eux seuls.
Vous avez évoqué les assises de lutte contre l'antisémitisme. Il y avait deux champs, l'éducation et la justice. Un directeur d'enquête à l'époque de l'affaire Ilan Halimi, chef de la brigade criminelle de la préfecture de Paris, avait déclaré à propos du gang des barbares, je cite, « Ce n'était pas antisémite, ils s'en sont pris à un juif parce qu'ils pensaient qu'il avait de l'argent ». Ça rappelle aussi cette affaire de la nounou qui a intoxiqué une famille juive. La justice qui a toujours du mal avec l'antisémitisme quand il n'est pas purement revendiqué. Quelle réponse, quels outils face à ça?
Deux choses. Moi, j'ai signé une convention avec l'École nationale de la magistrature et je veux saluer l'engagement très fort de la directrice de l'École nationale de la magistrature pour revoir justement les éléments de formation, formation initiale, formation continue, parce que la force, malheureusement, de l'antisémitisme, c'est sa capacité à évoluer, c'est sa capacité à épouser les contours d'une époque. Donc il y a à la fois des stéréotypes qui persistent, le rapport à l'argent, malheureusement, c'est ce qui a emporté Ilan, et c'est un stéréotype extraordinairement ancien et qui persiste, mais on voit bien qu'il y a malheureusement d'autres formes, des formes renouvelées sur l'antisémitisme, sur la question évidemment aujourd'hui de l'antisionisme. Il faut être naïf ou complice pour ne pas le voir. Aujourd'hui, l'antisionisme est évidemment une forme d'antisémitisme, et si ce n'est d'ailleurs la première des formes dans la manière avec laquelle les attaques sont formulées, les insultes sont formulées, mais les cibles, elles, ne changent pas. Donc la formation, elle est absolument déterminante, parce que c'est ensuite la manière avec laquelle nos magistrats vont être en capacité de rendre la justice et puis faire évoluer la loi. C'est la raison pour laquelle, vous le savez, le gouvernement soutient la proposition de loi de Caroline Yadan. Quand j'étais redevenue députée, on avait même écrit ensemble cette loi. La loi, elle a évolué parce que nous avons pris en compte, Caroline Yadan a pris en compte les recommandations, l'avis du Conseil d'État. Donc il n'y a plus aucune réserve. Aucune réserve juridique. Il n'y a évidemment aucune atteinte aux libertés fondamentales, à la liberté d'expression. Chacun a le droit de penser ce qu'il veut de la politique du gouvernement israélien. Personne n'a le droit d'appeler à la destruction de l'État d'Israël, et encore moins de considérer que les Français juifs ou les juifs à travers le monde, où qu'ils soient, seraient d'une quelconque manière responsables de la situation au Proche-Orient. Et donc, adapter notre droit, adapter nos règles aux nouvelles formes de l'antisémitisme, c'est essentiel et c'est le travail qu'on engage grâce à la proposition de loi de Caroline Yadan.
Cette proposition de loi, justement, qui avait été adoptée en commission, mais Caroline Yadan qui nous dit elle-même que si vous la reprenez pas, vous, au niveau du gouvernement, elle passera jamais avant la fin du quinquennat. Vous vous engagez à ça?
Alors, le gouvernement a demandé ce qu'on appelle la procédure accélérée, ce qui va garantir d'aller vite. Et là, vous le savez, il fallait mettre derrière nous la partie budgétaire. Ça y est, c'est fait. Pour remettre à plat tout le calendrier parlementaire. Donc, tout le calendrier parlementaire est en train d'être réexaminé. Et évidemment, pour nous, c'est une priorité, parce que le combat contre l'antisémitisme est une priorité du gouvernement.
L'arbre qui sera planté à l'Élysée, ce grand discours sur l'antisémitisme attendu, en quoi cet acte hautement symbolique pour vous, il est important?
Le jardin de l'Élysée, c'est le jardin de la République. Et le fait qu'il ait été choisi par le président de la République d'y planter un arbre en hommage à Ilan Halimi pour contrer celles et ceux qui préfèrent tronçonner et qui espèrent, en tronçonnant des arbres, tronçonner et couper la mémoire d'Ilan et couper la transmission de cette mémoire, je crois que c'est une réponse qui est symbolique, mais qui dit quelque chose de notre pays et de la réaction qu'on a. C'est-à-dire qu'on aurait pu se dire les arbres sont tronçonnés et alors non, la justice a été saisie, des condamnations ont été rendues et des arbres ont été plantés. Et je pense que c'est ça aussi qui est extrêmement important, c'est de montrer que face à ceux qui tronçonnent, il y a ceux qui plantent, il y a ceux qui sont présents, il y a ceux qui se mobilisent, il y a ceux qui s'engagent. Et c'est d'ailleurs un des messages que je délivrerai en Israël, puisque vous savez que je pars dimanche en Israël pour relancer le dialogue franco-israélien et évidemment poursuivre ensemble ce dialogue, cette amitié entre la France et Israël et évidemment notre combat commun contre l'antisémitisme.
Il y a eu une forme de ressentiment quelque part exprimé par certains de la communauté juive vis-à-vis du président du fait de sa non-participation à la marche pour la République en novembre 2023. Ce qui se passe à l'Élysée, là, c'est aussi peut-être une forme de réconciliation qui peut advenir.
Je crois que c'est essentiel de savoir ce que la France a fait dès le lendemain du 7 octobre. Dès le lendemain du 7 octobre, la France a agi. La France n'a pas laissé seuls les Français juifs. C'est-à-dire que les ordres très clairs, les instructions qui ont été données par les ministres de l'Intérieur successifs, par les ministres de la Justice, par les ministres de l'Enseignement supérieur, ça a été immédiat. Dès le 8 octobre, à la fois sur la sécurisation des lieux, des écoles, des lieux de vie juives aussi, sur des circulaires de politique pénale, sur la loi que nous avons changée sur l'antisémitisme au sein de l'enseignement supérieur, sur les assises de lutte contre l'antisémitisme que j'ai portées, je crois, avec conviction et engagement, et qui irriguent aujourd'hui aussi beaucoup des politiques qu'on porte. Donc l'engagement de la France, il est clair. Si l'engagement de la France, il est clair, c'est parce que l'engagement du président de la République a été clair, puisque c'est lui qui a souhaité qu'il y ait cette mobilisation, le fait qu'il y ait un discours porté à l'Élysée, avec la famille d'Ilan Halimi qui sera présente, qui est présente. Je crois que c'est en effet extrêmement important et que ça dépasse le simple symbole parce que c'est s'exprimer au nom des Français aussi. Et avoir ce message-là, moi, ce qui m'a le plus ému, ébranlé ces deux dernières années, c'est trop souvent le sentiment de solitude. Le fait que les Français juifs se sont sentis seuls face à la haine. Et ils ne doivent jamais être seuls. C'est notre combat. C'est pas le combat seulement des Juifs, c'est le combat des Justes. C'est ce que je ne cesse de répéter et que je continuerai à répéter parce que ça veut dire que face au risque de l'indifférence, il faut au contraire qu'il y ait beaucoup d'engagement dans la société. Et je crois que l'engagement, il est clair du côté de l'État, du côté de la France. C'est notre engagement très clair dans la lutte contre l'antisémitisme et c'est un engagement qui, malheureusement, tant qu'il y aura encore des antisémites, perdurera. Mais c'est un engagement qui doit être celui de tous les Français.
Dernière question, Aurore Berger, vous le dites souvent, l'antisémitisme qui est l'apanage de l'extrême gauche, de l'extrême droite, face à leur montée depuis 2017 et les perspectives pas forcément réjouissantes qui sont les nôtres, vous exprimez toujours que le centre, le bloc central, la Macronie, c'est ça aujourd'hui qui peut faire face à ces deux extrêmes.
En tout cas, moi, je refuse l'idée de laisser comme seul choix aux Français en 2027 un choix mortifère entre, d'un côté, la France insoumise, de l'autre côté, le Rassemblement national. Et au milieu, là, il y a la République qui est prise en otage. Au milieu, il y a les Français juifs qui sont pris en otage aussi de ce combat-là. Parce que vous avez d'un côté la France insoumise, dont on sait qu'elle instrumentalise et qu'elle accompagne et qu'elle alimente la haine d'Israël et que de facto, cette haine d'Israël sert de carburant à l'antisémitisme. Et puis, il y a de l'autre côté le Rassemblement national qui essaye de faire oublier qui il est, qu'il continue d'ailleurs à investir, ça se voit sur les élections municipales. Sur les élections municipales, ils sont encore obligés de retirer des investitures à certains candidats. Pourquoi ? Pour des faits de racisme, pour des faits d'antisémitisme. Donc c'est pas du passé, c'est malheureusement encore leur présent. Donc ils essaient de se refaire une virginité sur le dos d'Israël notamment. Moi je pense qu'il faut être très lucide et je pense que les Français sont lucides. Par contre, nous, notre responsabilité responsable politique, c'est de faire en sorte que les Français n'aient pas uniquement à avoir ce choix au second tour de l'élection présidentielle de 2027.
Merci beaucoup, Aurore, d'avoir été notre invitée sur RCJ.
8h23 sur RCJ, regard sur les préjugés antisémites 20 ans après la mort d'Ilan Halimi. C'est une étude d'IFOP pour l'Union des étudiants juifs de France. On va la décrypter avec vous, Yosef Murciano, président de l'UEJF. Bonjour.
Bonjour.
Ce qui ressort de cette étude, c'est qu'il y a un socle massif de stéréotypes antisémites qui demeure. Et l'un des chiffres principaux, un Français sur 4 croit toujours que les Juifs sont riches. C'est ce qui a tué Ilan Halimi et qui est toujours vivace dans notre société.
C'est ça qui a tué Ilan Halimi. Un Français sur 4 croit encore que les Juifs sont plus riches que le reste de la population. Et 69% de la population française croit que les Juifs sont plus solidaires que d'autres communautés, que d'autres groupes. Ce sont les deux préjugés. C'est pas moi qui le dis, c'est le gang des barbares au tribunal devant la police qui explique que s'ils ont choisi Ilan Halimi, c'est parce que, un, il était riche, et deux, parce qu'il venait d'une famille juive, et deux, parce qu'il vient d'une famille juive, sa famille va pouvoir trouver de l'argent par solidarité.
Ces préjugés antisémites, ils ont évolué, bien sûr. Depuis 20 ans, ceux liés à l'argent qui sont toujours là, mais aussi ceux liés à Israël. Désormais, il y a eu un déplacement sur notamment la légitimité aussi de l'existence même d'Israël.
Quand on voit, il y a certains chiffres qui sont complètement inquiétants. Déjà, la population française comprend que depuis le 7 octobre, les Juifs sont plus en danger qu'avant. Ça, on la voit, cette évolution. Et paradoxalement, au même endroit, au même moment, chez les mêmes sondés, on voit que 50%, sympathisant LFI sur deux, considère que Israël n'a aucune légitimité à exister. C'est à peu près la même proportion chez les jeunes de 18 à 24 ans. C'est pas du tout la même proportion dans le reste de la société. On voit qu'il y a un discours de délégitimation de l'État d'Israël, de l'existence de l'État d'Israël chez LFI et chez les jeunes. Et c'est inquiétant, à la fois parce que les jeunes, c'est l'avenir, c'est le présent puis l'avenir, et donc peut-être une diffusion encore plus importante de cette question-là qu'on considère comme une question antisémite finalement, parce que délégitimer l'existence d'Israël, considérer qu'Israël n'a pas de légitimité, considérer aussi qu'il y a une forme d'organisation sioniste qui serait partout, c'est un des préjugés qui ressort dans le sondage. Tout ça, ce sont des préjugés finalement qui sont antisémites.
Vous dressez bien sûr dans cette étude un constat, mais vous êtes une organisation de lutte contre l'antisémitisme. À la fois, est-ce que ça correspond à ce que vous avez retrouvé dans les discours, notamment dans les facs depuis deux ans, et quels outils aujourd'hui pour combattre ces préjugés ?
Déjà, on le voit bien, il y a un recyclage des préjugés antisémites en préjugés antisionistes. Quand on entend depuis deux ans, de façon continue, que les sionistes s'organisent comme lobby, que les sionistes seraient proches du pouvoir, quand on voit des tweets de députés français qui accusent d'autres députés français d'être des députés de la Knesset et donc d'avoir une forme de double allégeance. Tout ça, ce sont des préjugés que l'on connaît, qui sont des préjugés antisémites, qui sont profondément ancrés dans l'esprit des Français. Parce que ça fait des centaines, des milliers d'années qu'ils existent, ces préjugés. Et donc, l'antisionisme, il circule sur le terreau de ces préjugés antisémites, et c'est pour ça qu'il accroche aussi rapidement, et c'est pour ça qu'il convainc aussi facilement. Quand on voit, après deux ans de matraquage dans les facs, dans le discours politique à l'extrême-gauche, que les sionistes contrôlent le monde et que les sionistes ont l'oreille du pouvoir, il faut pouvoir entendre, il faut que la société civile dans son entièreté entende que là, on est face à une utilisation de préjugés antisémites.
Qu'en est-il par ailleurs de la connaissance des Français sondés de l'affaire Ilan Halimi, et en quoi, et dans la perspective de ce qui va se passer tout à l'heure à l'Élysée, en quoi savoir ce qui s'est passé pour Ilan Halimi, c'est important pour tous les Français aujourd'hui?
L'affaire Ilan Halimi, c'est l'affaire des préjugés antisémites qui tuent. Comprendre l'affaire Ilan Halimi, connaître l'affaire Ilan Halimi, c'est savoir que des préjugés antisémites, aussi anodins qu'ils puissent paraître, aussi parfois même positifs qu'ils puissent paraître, on parlait de ce préjugé de « les Juifs sont solidaires », connaître l'affaire Ilan Halimi, c'est savoir que les préjugés, aussi anodins qu'ils puissent paraître, peuvent tuer. Ne pas connaître l'affaire Ilan Halimi, c'est se risquer à voir l'histoire se répéter encore une fois. 73% de la jeunesse, des 18-24 ans, ne connaissent pas l'affaire Ilan Halimi. Il y a un énorme travail de pédagogie à faire, un énorme travail de lutte contre les préjugés à faire, et c'est ce qu'on mène, nous, dans les universités, mais aussi dans les classes avec le programme Coexiste. On lutte au quotidien contre les préjugés parce que l'affaire Ilan Halimi, ça nous a enseigné que les préjugés peuvent avoir une conséquence délétère.
Dernière question, Youssef Mersian, il nous reste 30 secondes. Pour faire connaître cette histoire, vous avez organisé un collège dans les rues de Paris cette nuit. C'est important de se dire, il y a ce qui se passe à l'Élysée et il y a aussi ce qui se passe au concret avec les gens. Il faut agir sur les deux terrains.
Évidemment, et on est aussi toute la journée partout pour faire des micro-trottoirs, pour essayer de rencontrer la population, pour essayer de lui parler. Voilà, il faut coller partout dans les murs. On a des affiches, rejoignez l'action. Il faut que tout le monde connaisse Ilan Halimi.
Merci beaucoup Yosef Murciano, président de l'UEJF, d'avoir été notre invité ce matin sur RCJ. C'est la fin de cette édition spéciale. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi à midi. Retrouvez la continuité, une édition spéciale avec Sandrine Seban. On reviendra sur notamment la cérémonie en hommage à Ilan Halimi qui se tiendra à l'Élysée. Continuez à nous suivre. Bonne journée sur RCJ.